J'ai réfléchi, j'ai tourné et retourné tout ça dans ma tête. Et j'ai pris une grave décision. Celle de te garder, chérie, parce que je t'aime.
Jean-Pierre ! Oh, je serai la femme la plus aimante qui ait jamais existé.
J'en suis persuadé.
Courageuse, courtoise. Tu es la plus raisonnable, c'est pour ça que je t'aime. Tu ne mets des bas que seulement quand je te le dis.
Je suis la plus respectueuse, c'est pour ça que tu m'aimes. Je ne parle pas en présence de amis.
Cuisinière, casanière, obéissante, charmante.
Jolie, polie, consentante, avenante.
Obstinante, patiente, courageuse, courtoise.
Ordonnée, organisée, attentionnée, civilisée.
Cuisinière, casanière, obéissante, charmante.
Jolie, polie, consentante, avenante.
Obstinante, patiente, courageuse, courtoise.
Ordonnée, organisée, attentionnée, civilisée.
Consensuelle.
Bonsoir, c'est Jeudi Noir qui reprend. Oh là là, on a perdu un peu tous les automatismes. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Ah non, finalement, les automatismes, c'est comme faire du vélo. Et donc, c'est Jeudi Noir donc, qui reprend après une longue période de pause qui était essentiellement la faute de Jean Mathias, il faut bien le dire. Et voilà, parce que sans ça, José et moi, nous aurions tout bravé, affronté le Covid à main nue pour venir... vous embêtez avec nos lubies.
Moi, je suis venu, mais vous n'étiez pas là. Hein.
Tu mens. Et donc, ce soir, Jim a choisi un bouquin qui était tout à fait en rapport avec l'actualité, comme on le fait souvent, nous, à Jeudi Noir, parce qu'on aime bien l'actualité. Et on se tient au courant des trucs qui se passent. Voilà. Donc, on sait.
C'est sûrement l'actualité de certaines personnes. Hein.
Ah ben, bientôt en tout cas, et ils le regretteront toute leur vie, puisque ce soir nous allons vous parler d'un de nos auteurs un peu fétiches, Bertrand Russell. au sujet de deux ouvrages, Le mariage et la morale et Pourquoi je ne suis pas chrétien. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a un lien entre les deux. Donc on va voir, sachant que Bertrand Russell a été marié combien de fois ? 5 fois ?
Oui, il a plusieurs relations, ouais. Voilà. Donc, plusieurs relations.
Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Oui, et d'ailleurs qui est pas fondamentalement hostile au mariage en tant que tel.
Je suis déçu.
Oui, mais j'ai bien vu que tu avais une lueur d'espoir qui s'allumait dans tes petits yeux opportunistes. Mais en fait, non, il n'est pas, il n'est pas hostile. C'est une analyse du mariage, effectivement.
Mais c'est une analyse hostile. S'il est impartial.
Non, du tout. Tu verras que c'est plus. Et en plus, t'as fait l'ironie sur notre actualité, mais on est en plein dedans, figure-toi, parce que c'est le deuxième tirage. C'est le deuxième tirage de l'édition.
Qui date de. Enfin, non, moi, je pensais
à
plus,
2019. Non, donc non, on est quand même.
Non, je pensais plutôt à peut-être au premier sinistre du gouvernement.
Ouais,
qui a dit que bientôt on allait enfin pouvoir de nouveau se marier.
Oui, c'est vrai.
Qu'on allait pouvoir célébrer des mariages. Ouais. Ce qui m'a semblé faire partie des nombreuses mauvaises nouvelles du déconfinement, voilà.
Bah pour l'instant, il y a un protocole qui nous sauve, quoi. Qu'est-ce que tu veux ?
C'est ça. Bon.
Bref, alors du coup, non, mais pourquoi effectivement ce choix de texte ? Bah là, oui, on est une période un peu heurtée, hein. Et du coup, comme tu disais, en fait, de toute façon, c'est toujours bon de discuter autour de textes de Russell. On perd jamais son temps, voilà. Donc c'est un classique, évidemment, ce texte-là, c'est intitulé Le mariage et la morale. C'est un texte qui date de 1929 ou 27, 29 je crois, celui-là. 29, ouais, c'est ça. Donc c'est un des textes, c'est pas un texte de jeunesse exactement, c'est pas non plus un des derniers textes de Russell, hein. Ça fait partie des textes qui l'ont rendu célèbre dans le domaine de la philosophie morale, du débat d'idées, des débats
un peu externe.
Voilà, ses spécialités.
L'université.
Voilà, ce qui l'a fait, c'est avant tout un logicien des mathématiques, un philosophe des mathématiques. Donc c'est là-dessus effectivement qui construit sa réputation d'abord, et puis après effectivement c'est aussi un militant socialiste libertaire engagé depuis longtemps, pacifiste, anticlérical, athée. Et il revendique, militant, et il revendique tout ça. Et donc là, effectivement, dans ce texte-là, le texte sur le mariage l'a rendu célèbre.
D'ailleurs, comme José choisit toujours les morceaux en lien avec, avec le truc, quand même, il faut dire que là, vous avez entendu Femme idéale. C'est une reprise de Christophe Rémiot, qui est aussi animateur sur Radio Libertaire de l'émission Les Oreilles Libres. Et c'est une reprise qui est interprétée par des gens qu'on connaît un petit peu, donc Petra Piedbiche et avec Gurdulu en guest. Ouais. Voilà.
Je crois qu'ils l'interprètent lors des mariages, en fait, il paraît.
Ah bon ?
Et des bar mitzvahs.
D'accord. Ah, ok, pas mal. Ouais, non, c'est indiqué.
Alors, du coup, pour revenir sur le texte de Russell, alors rapidement quand même, donc c'est un texte classique. En fait, il l'a rendu qui est célèbre surtout par les réactions qu'il a suscitées. C'est ça qui est assez rigolo dans ce texte-là, c'est que lu aujourd'hui, c'est un texte qui est pas complètement surprenant. C'est-à-dire que si tu veux, t'as des analyses du mariage, alors notamment des conceptions religieuses du mariage, hein, puisque c'est ça qui est cible, c'est pas le mariage en tant que tel. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que il désingue de manière assez totale et complète, il faut le dire, et définitive, les conceptions religieuses du mariage, c'est-à-dire toute la portée morale, notamment tout ce que ça implique en termes de morale sexuelle, évidemment, en termes de morale patriarcale et de rapport patriarcal. Donc ça, évidemment, c'est démonté écrou par écrou. Ça n'a pas manqué de susciter des cris d'horreur. Alors le texte là, l'édition aux belles lettres,
il leur amène à un truc juridique pur, le mariage.
Oui, un truc juridique surtout un truc juridique de protection des enfants,
d'accord.
Enfants, s'il y en a. Non, c'est une pure affaire du droit familial, en fait. D'accord. Quoi. Voilà, c'est du droit familial, en protection morale et physique des gamins, quoi, quand il y en a. Et alors du coup, c'est marrant parce que tu as des débats qui sont un peu datés dans cette affaire-là. Bon, il y a des idées rigolotes, moi je le dis tout de suite comme ça, parce que ça fait partie des trucs marrants. Il plaide par exemple pour la possibilité, donc bon, il y a une défense du principe du divorce, évidemment, contre les conceptions religieuses qui voient un espèce de sacrement définitif, etc.
Donc ah bah l'Église catholique, c'est un des cinq sacrements. Donc,
bien sûr. Mais lui, par exemple, il fait des hypothèses marrantes. Par exemple, il plaide pour des périodes d'essai, en fait, des mariages d'essai, en fait, pour qu'on ait droit à une période comme sur le principe du droit du travail, quoi.
Un peu comme Nicole Notat, tu veux dire?
C'était
Nicole Notat ou c'était une autre? Tout est provisoire dans la vie, l'amour.
C'était notre l'ancienne du MEDEF. Mais il y a un côté
Parizeau, Notat, CFDT, MEDEF. J'ai du mal à faire la différence.
Non, là, du coup, voilà, ça fait partie des propositions. Évidemment, sur la question de la condamnation morale ou religieuse de l'adultère, là, c'est pareil, il y a des pages qui sont assez rigolotes. Mais en fait, évidemment, tout ça prend un peu de sens. Ce texte sur le mariage, il prend aussi du sens par rapport à l'engagement athée, anticlérical et anti-religieux de Russell. Et là, l'édition est assez habile parce que bon, il y a ce texte-là qui fait une 150 pages à peu près. Et ensuite, il est réédité avec d'autres petits opuscules. Donc un qui est très connu aussi qui s'appelle Pourquoi je ne suis pas chrétien, et puis un autre Ce que je crois, qui est une espèce de manifeste un petit peu antérieur de Russell, où il explique en fait ses conceptions de la nature humaine et puis de la morale qui selon lui en découle. Et c'est des petits opuscules comme ça qui remettent un peu en perspective et qui sont des brûlots clairement anti-religieux et anti-catholiques, anti-chrétiens, hein, pour être plus précis. Et il y a aussi, et ça c'est assez savoureux, il y a aussi un petit texte au milieu entre les deux qui est celui en fait d'un collègue de Russell qui l'avait qui avait proposé la candidature de Russell
à
l'université de New York en 41. Et en fait, c'est assez marrant. On peut peut-être partir de là, parce que c'est l'anecdote qui donne un peu la tonalité, quoi, de la réception de ces textes-là. Donc en 41, en fait, Russell, bon, il est déjà à un certain âge, hein, mais il est déjà connu, réputé. Il enseigne en Californie à l'époque, et on va lui proposer, notamment sur la proposition d'un admirateur qui enseigne à New York, là, Paul Edwards, qui va l'éditer plus tard. Paul Edwards le propose à l'Assemblée des professeurs de l'Université de New York, qui va les lire déjà à la quasi-unanimité sur un poste de philosophie des mathématiques.
Oui, parce qu'on en parle souvent de Russell, donc on oublie de vous refaire un petit peu le topo sur sa vie, mais
c'est une grosse
brute universitaire. C'est le genre de mec qui veut fonder les mathématiques avec son copain Whitehead. Il tombe sur un paradoxe qui défonce les mathématiques. Ouais. Il est embêté, il y a des mathématiciens qui se suicident. Donc il trouve une solution à la propre
problème
qu'il a rencontré. Ouais. Donc il écrit un bouquin que trois personnes ont dû lire au XXe siècle et deux personnes ont dû comprendre peut-être. Enfin bon, c'est une espèce de brute complète d'un point de vue intellectuel. Et politiquement, il part d'une famille qui est ultra favorisée puisque son grand-père avait été premier ministre.
Lui-même est un lord britannique.
C'est Lord Russell. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui, en 1916, est pacifiste pendant la Première Guerre mondiale.
Défend l'objection de conscience. Six mois de prison.
Perd son poste à l'université. Voit ses biens vendus aux enchères. Et bon, il a une vie assez... En 1921, il va visiter l'Union soviétique. On avait fait un topo là-dessus. C'est quelqu'un qui, évidemment, pour des universitaires pur jus...
Complètement atypique
et en même temps ultra légitime.
Ah, ultra légitime, du point de vue intellectuel. Il enseigne en Californie, si tu veux. Voilà, il enseigne la philosophie des maths. En fait, il est sur le podium, en fait.
C'est ça, des plus grands philosophes des mathématiques
du XXe siècle, et déjà à l'époque. Hein. Donc, effectivement, c'est les
Donc, il faut imaginer aussi que c'est pas une espèce de, comment dire, d'outsider.
Ah non, du tout.
Non, il est au cœur du système en se permettant aussi sa propre excentricité. Mais donc, quand il postule à New York, c'est normal, quoi.
On le propose, hein. c'est pas lui qui fait la démarche. On lui propose le poste, unanimité, et donc ça va déclencher une espèce de cabale où toutes les ligues de vertu catholiques, protestantes vont se mobiliser. Et c'est là que tu t'aperçois qu'effectivement, c'est vraiment ce qu'elles ont toujours été, quoi. C'est quand même un ramassis de sales cons, quoi. Et qui du coup, si tu veux, donne le relief qu'aujourd'hui on n'a plus tellement quand on lit le texte, si tu veux. C'est-à-dire que tu lis le texte, tu as effectivement des défense. Bon voilà, il y a plein de choses sur, évidemment, sur la critique du patriarcat, sur le fait que le patriarcat n'a absolument rien de naturel. Donc il y a des petites analyses comme ça. C'est pas un anthropologue, si tu veux, c'est jamais prétentieux, hein, Russell. Par contre, c'est toujours ultra précis, ultra empirique. Ça s'appuie toujours sur des faits et ça arrive à des conclusions qui en général sont toujours en béton armé, même si elles sont pas. Il y a aucune esbroufe en fait dans son écriture, ça faut le dire. Donc c'est particulièrement agréable à lire. Mais du coup, par exemple, pour expliquer en quoi le patriarcat n'a absolument rien de naturel, bon, bah, évidemment, il va chercher des exemples étudiés par les anthropologues de sociétés matriarcales dans lesquelles, en fait, on ne connaît même pas le lien physiologique de la paternité.
Voilà. Existe.
Et il y a effectivement des sociétés de ce type-là, c'est-à-dire qu'effectivement...
La paternité uniquement sociale.
Exactement.
Et il n'y a pas de paternité biologique.
Parce que la connaissance n'est pas là. Parce que le concept de paternité physiologique n'est pas là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, effectivement, que cette connaissance est absente, en tout cas dans les études qui produit. Et du coup, bah, naturellement, celui qui va être chargé de l'autorité parentale masculine, c'est va être un oncle, hein, c'est en général, donc le frère de la mère. Mais du coup, ça change tout, évidemment, parce qu'il n'y a pas du tout de transmission, d'enjeux économiques, de propriété, d'héritage, etc. etc. Et donc, il n'y a pas d'autorité patriarcale non plus. Donc, en fait, il essaye toujours de replacer en fait son analyse lui du patriarcat dans une approche qui est à la fois historique et anthropologique, sans aller faire des études, si tu veux, voilà. On est en 27 et en même temps, à chaque fois, en même temps, il s'appuie sur du fait. C'est du solide. Donc, bah, si c'est pas naturel, bah, donc c'est culturel. Donc, alors expliquons quelles sont les raisons qui ont amené à ce type de croyance-là et comment ça a été justifié. Il remet ça en perspective par rapport à l'histoire religieuse du mariage et de la sexualité. Et si tu veux. C'est intéressant en soi parce que c'est un raisonnement qui est rigoureux, qui est instructif, qui s'appuie sur des faits qu'on n'a pas forcément l'impression de manipuler. Mais les conclusions sont pas bouleversantes aujourd'hui, si tu veux. Après, décennies de féminisme ou de, il y a quand même des choses qui tu sens que voilà, du point de vue des mentalités, ouais. Je dirais, ou
deux, trois idées qui sont passées.
Oui,
un petit peu,
du point de vue du sens commun, voilà. Donc
un
alors,
petit peu peut-être.
T'as un engagement, voilà, en faveur de l'éducation. C'est toujours ce qui est marrant, c'est que tu as l'impression de rien apprendre, et en fait, quand tu prends ça au sérieux, tu t'aperçois que c'est finalement pas si évident que ça pour beaucoup de gens, en fait, quand tu regardes les choses de près. Donc, tu as plein de choses en faveur, voilà, de l'éducation à la sexualité, notamment chez les enfants. Donc, une espèce il montre l'absurdité, en fait, des condamnations morales de l'adultère. Il y en a un qui soigne tout particulièrement, c'est les condamnations chrétiennes de la sexualité et du plaisir sexuel notamment, avec citation de saint Paul à l'appui et avec une analyse assez convaincante, même assez irréfutable, de la manière dont en fait le christianisme te pense le mariage en fait comme un anti-cul essentiellement, hein, comme une anti-sexualité en réalité, quelque chose qui est censé en fait à la fois neutraliser la sexualité puisqu'elle n'est légitime que s'il y a procréation derrière, et qui va servir à verrouiller la condamnation qui est première, en fait. Il y a d'abord la condamnation de la sexualité en tant que telle, il cite dans l'Épître aux Corinthiens notamment, il y a d'abord ça chez saint Paul, et ensuite, effectivement, le mariage qui vient comme une espèce de pis-aller pour verrouiller la chose, voilà. Et s'assurer qu'effectivement la sexualité est sous contrôle de ça. Donc, il te rappelle des choses qui sont importantes, si tu veux, les grands aiguillages, quoi, hein, les grands aiguillages qui t'amènent à un patriarcat de nature religieuse, et ce qui est toujours intéressant, c'est Russell aussi, c'est qu'en fait, il montre que c'est pas des espèces de blocs manichéens comme ça. C'est-à-dire qu'il montre que, par exemple, dans le christianisme, dans la lecture que lui en fait en tout cas, il y a cette idée qu'il y a aussi les germes déjà de ce qui va dissoudre petit à petit le patriarcat. Hein. C'est-à-dire, par exemple, une forme d'individualisme qui, en fait, n'est pas tellement compatible avec un patriarcat pur et dur familial, parce que finalement, avec l'individualisme chrétien, développé encore plus dans le protestantisme, il y a quelque chose comme un ferment de dissolution, si tu veux, de l'autorité paternelle. Et il y a même un truc, ça m'a assez surpris, parce que je ne m'attendais pas à ça, je connaissais pas le texte. Et tu as tout un tas d'analyses qui sont un peu des espèces de prémices de toutes les tartes à la crème aujourd'hui sur la crise de la fonction paternelle, là. La crise de la fonction paternelle, de l'autorité paternelle, etc. Et en fait, Russell dit, bah oui, bien sûr qu'il y a une crise de la fonction paternelle, c'est évident, en fait. Notamment à cause du christianisme, parce qu'effectivement, l'individualisme qui est derrière fait que, bah, finalement, le père n'est plus tout puissant et n'est plus, voilà, omnipotent par rapport à la cellule familiale, etc. Il rappelle notamment que c'était, quand il y a eu la législation sur le travail des enfants, il y a eu effectivement des arguments hostiles à cette législation au nom de l'autorité du père à faire travailler ses gamins. Ah oui. Ouais, une espèce de droit de vie ou de mort qui remonte à l'Antiquité sur sa progéniture, quoi. Et donc il dit qu'avec le christianisme, on n'est déjà plus là-dedans. Et donc il y a ce ferment-là, voilà, qui est un petit peu à double tranchant. Et puis il y a aussi chez lui là, ce qui diminue de plus en plus l'autorité paternelle indiscutable et catégorique, c'est en fait l'engagement et l'implication de l'État dans l'éducation.
Oui.
L'éducation et dans la santé. Hein, et donc voilà. Alors tout ça sont des choses, si tu veux, qui sont assez habituelles, assez connues, je dirais maintenant. Mais c'est une manière de la remise en perspective et le synthétique qu'il en fait est toujours un peu rafraîchissante, si tu veux, parce que et on est en 27, quoi. Donc c'est marrant parce que c'est pas un argumentaire univoque, tu vois, à tirer comme un bourrin sur ce qu'il déteste. On voit bien ce qu'il aime pas. Il y a aucune ambiguïté. Mais en même temps, il y a toujours voilà la mise en perspective qui lui permet aussi de voir voilà de comprendre des transitions historiques ou des mouvements historiques comme ça, bon, même si ça reste un peu général. Donc, t'as tout ça. T'as tout un tas d'engagements un peu pré-babacool, si tu veux, sur une espèce de, voilà, d'acceptation de la nudité, notamment dans la sphère familiale aussi. Donc, alors, sur le divorce, c'est pareil, c'est des positions, tout à l'heure, tu c'est ça au début, sur le divorce, en fait, alors, il est favorable au divorce dans les cas extrêmes, où évidemment, folie, maladie, oui, etc., violence, enfin, dans tous les trucs dans lesquels ça s'impose. Mais il est pas très chaud quand il y a des gamins dans l'affaire.
D'accord.
Et il le dit tel quel. Il le dit tel quel en disant qu'en fait, c'est pas une solution. Il dit qu'en fait, il faut prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir comment faire en sorte qu'une union qui produit des gamins, si on veut dire comme ça, oui, soit durable et acceptable pour les deux, en fait, pour les deux dans le couple. C'est pour ça que, par contre, il condamne absolument pas l'adultère. Il dit que la dimension morale de l'adultère, ça c'est une connerie pure et simple, parce que ça fait partie des choses qui rendent nécessaire le divorce, y compris quand il y a des gamins, et voilà, enfin, tu vois le type de raisonnement qui est derrière. Avec cette idée donc, qui se dessine, si tu veux, c'est que le mariage est en fait une affaire qui n'a rien à voir et qui devrait rien avoir finalement avec la question de la sexualité ou avec la question de l'engagement de mutuel ou affectif entre les deux, à l'intérieur du couple, mais que c'est essentiellement une garantie juridique pour la sécurité physique et affective des enfants, en fait, en réalité.
Peut-être faire une pause ici et puis diffuser un morceau de musique.
Oh,
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc, qui se poursuit pour une émission consacrée au philosophe anglais Bertrand Russell et au petit essai qu'il a consacré au mariage et la morale, et puis un second essai sur la chrétienté. Donc on discutait en antenne sur les conceptions de Russell, puisque évidemment ça pose plein de problèmes aujourd'hui par rapport à toutes les réflexions qu'il peut y avoir sur... justement sur le patriarcat, sur le fait que essentiellement le mariage est fait, comment dire, est conçu pour être à l'avantage du mâle. Et donc là, au niveau de l'adultère, par exemple, bon, comme pour Russell, la morale et ce genre de trucs n'ont rien à voir dans le mariage. Justement, interdire l'adultère dans le mariage, pour lui, c'est une aberration, c'est illogique. Et ce qu'il faudrait, c'est que l'homme et la femme pris par les liens du mariage pour les enfants. Aient le droit de faire ce qu'ils veulent en dehors des obligations qu'ils ont à l'égard de leurs enfants.
C'est exactement
ce qui pose aussi, ce qui veut dire que si le mariage n'a de raison que pour les enfants, effectivement, par rapport à l'époque de Russell, dont la nôtre, le problème se poserait sans doute totalement différemment, ça peut poser un problème par rapport aux enfants. Puisque nous, aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent qu'il y a un problème avec l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, mais bon.
Ah oui, alors là, évidemment, c'est ce qu'on disait.
Maman, là-dessus, c'est 1927, là, t'as rien là-dessus.
T'as un truc, si on prend les catégories d'aujourd'hui, il y a un côté hétéro-centré hein, dans sa manière de présenter les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il a le couple biologique, je dirais, un peu comme
norme dans la tête.
Ouais. Comme norme, mais c'est pas une norme morale. Oui. Tu vois, c'est pas une norme morale, pour le coup, c'est une norme, je sais pas trop comment il faudrait dire, mais... c'est une norme d'usage biologique, je sais pas comment dire. Enfin, il y a pas de réflexion, il a pas les catégories là-dessus, quoi, ça c'est clair. T'as pas de condamnation du tout de l'homosexualité. Bon, après Russell, il vient aussi d'un milieu où l'homosexualité masculine notamment était très largement pratiquée, acceptée, et voilà, de fait. Donc
elle était sans doute pas revendiquée et sans doute pas réfléchie.
Non. Et puis surtout, elle était ni était certainement pas, en tout cas avec les catégories et ni avec les revendications d'aujourd'hui. Ça c'est sûr. Mais c'est clair qu'il s'inscrit dans le cadre d'une famille hétérosexuelle, quoi. Ça c'est la limite, c'est son cadre, c'est clair. Après, je te dis, dans ce cadre là en fait, c'est ce que je te dis à l'instant, si tu veux, c'est que c'est à la fois précis, avec des mises en perspective historiques et des arguments tout à fait étayés. Et en même temps, il y a quand même peu de conneries. Alors tu peux trouver des limites comme celle-là, si tu veux, bien sûr, parce que voilà, ça c'est pas un dieu non plus qui parle, si tu veux. Mais le texte, effectivement, n'a pas vieilli de ce point de vue-là, si tu veux. Il est vieilli par rapport aux limites que tu y vas et par rapport à l'effet de surprise un peu éventé que tu auras sur les conclusions. Mais du point de vue de l'argumentaire et puis du point de vue des conclusions en tant que telles. Pour le coup, il a pas pris une ride, quoi. Si tu veux, c'est cohérent, quoi. C'est cohérent, voilà. C'est respectueux des libertés, de l'égalité homme-femme. T'as toute une série de développements là-dessus. En fait, où il se pose des questions et il se les pose franchement, quoi. Tu vois, sur la question justement de l'émancipation matérielle des femmes. Donc lui, il y voit un fait, en fait. Il y voit un fait, une réalité. Donc avec une émancipation matérielle qui est un facteur d'affaiblissement du patriarcat clair et net, d'après lui. Et donc il dit, en fait, il le dit tel quel. Hein,
ça, c'est pas un truc qui l'attriste.
Ah, pas du tout. Ça a rien d'attristant. Et de toute façon, c'est un fait, quoi. Donc, la question, c'est effectivement, qu'est-ce qui se passe avec ça, en fait, si tu veux. Il n'est jamais en position. C'est ça qui est frappant dans sa manière de faire. Il le dit, à un moment, mais l'expression, elle est assez juste et un peu trompeuse en même temps. Il dit qu'en fait, il cherche à faire une espèce de moralisme scientifique. Et en fait, c'est pas exactement le terme de moralisme un peu trompeur, parce que si tu veux, il fait pas la morale, mais en fait, il essaye.
C'est une observation des mœurs.
C'est une observation des mœurs, et en fait, essayer d'utiliser ce qu'on sait, c'est-à-dire la science, ce qu'on sait, en fait, pour essayer d'avoir des moyens cohérents avec ce qui se fait et avec ce qui est souhaitable du point de vue des faits, quoi, tels qu'ils sont. Il y a un côté comme ça.
Donc, genre, on sait que le patriarcat n'est pas naturel, qu'il est purement culturel.
Voilà.
Ça, c'est un fait.
Si on le sait, si les femmes, effectivement, s'émancipent, si effectivement l'État est de plus en plus impliqué. Il n'est pas non plus. Il n'est pas naïf. Hein. Par exemple, sur l'État, il est méfiant.
Ah oui.
Il est plus que méfiant.
Russell n'aimait pas beaucoup l'État.
Il n'aime pas beaucoup l'État. Et en fait, il dit alors le problème, évidemment, l'effet que l'éducation soit assurée par l'État et que l'État s'occupe aussi des questions de santé publique, ça affaiblit le patriarcat, mais ça pose pose un risque majeur, c'est qu'effectivement, si l'État s'en occupe, bah, le risque derrière, c'est de dresser des gens dans le nationalisme et d'en faire des futurs soldats, des bons petits soldats. Et c'est une tendance qui est quasi inéluctable, en fait, si effectivement on laisse l'État uniquement faire ça, quoi. Donc, si tu veux, il y a ce côté descriptif, quoi, qui est toujours très, 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 très poussé chez lui, voir les faits tels qu'ils sont. Avant de te dire, de te demander et de poser d'abord comment ça devrait se passer, si tu veux. C'est toujours ça, ce côté empiriste très, très radical, en fait, chez lui, quoi, qui est rafraîchissant. Parce que, si tu veux, du coup, tu as l'impression, effectivement, d'être dans des choses qui te surprennent pas forcément, parce que finalement, les faits, en général, la plupart du temps,
on les connaît,
en fait. On les connaît. Après, tu peux avoir mille et une manières
de les relier, de les mettre en lumière.
C'est ça. Et puis, les éviter, surtout, si tu veux les éviter ou de pas te les formuler. Mais en fait, la plupart du temps, la plupart des faits, on les connaît. Et en fait, lui, tu tires simplement des conclusions, voilà, en évitant. C'est un exemple de sa démarche, moi, que j'aime beaucoup. C'est quand il parle du christianisme dans le deuxième opuscule, il dit, alors bon, c'est un débat, on avait déjà évoqué ici, il dit, mais il y a plein de gens qui défendent la religion en disant, on ne sait pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle a des conséquences positives, elle est utile pour la société. Et en fait, il dit, mais ça n'a juste, de son point de vue à lui, ça n'a juste pas de sens.
C'est dans aucun sens.
Ça n'a aucun sens de dire que la religion pourrait être bonne si on n'est pas sûr d'abord qu'elle est vraie. C'est-à-dire qu'en fait, si des croyances qui sont fausses ou des croyances qui sont absurdes ne peuvent pas être bonnes, tout simplement. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait, si tu veux, t'as un côté comme ça. Donc, effectivement, sur la question des croyances religieuses, la question, c'est de se demander si on prend les dogmes religieux, par exemple ceux du christianisme, puisque c'est celui qui l'a dans le collimateur. Bon, prenons le cas de l'immortalité de l'âme, prenons le cas du libre arbitre, prenons le cas des principaux dogmes de religieux, et puis essayons de voir effectivement, si effectivement ce sont étayés par des faits. Bon, là-dessus, ça va assez vite, si tu veux. Et après, il essaie de pousser la chose en disant, mais en fait, qu'est-ce que ça exprime, du coup, si c'est le symptôme de quelque chose, ou si c'est le symptôme d'une émotion, d'une passion particulière. Alors, voyons les choses. Et effectivement, est-ce que ce sont des passions qui sont dignes d'être encouragées? Même on peut poser la question, hein. Ou au contraire, est-ce que ce ne sont pas des passions qui sont plutôt négatives et plutôt à éviter? Et c'est sa conclusion, en fait. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur le terrain des faits, y compris du point de vue, je dirais, de ce qui s'exprime, si tu veux, dans l'élan religieux ou dans la foi religieuse. C'est en ça qu'il est assez fort. C'est-à-dire que c'est une double réfutation, je dirais. C'est une réfutation du point de vue des faits. Et si tu déplaces le problème en disant, bon, ok, mais en fait, ce qui est important, c'est pas tellement les faits, ou c'est pas de la théorie, la religion. Ça, c'est une défense de la religion qu'on trouve très souvent, si tu veux, en disant, c'est pas une théorie, c'est pas comme ça qu'il faut la comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est la fonction que ça joue et ce que ça permet d'exprimer, si tu veux, dans l'expérience humaine, les liens que ça permet de...
Parce que c'est une défense quasiment fonctionnaliste athée de la religion.
Mais lui, il la prend comme ça. Et il pose la question de dire, est-ce que ça mérite, est-ce que c'est digne d'être défendu, si tu veux. Et en fait, d'après lui, non. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, il y voit. Et c'est intéressant parce que, si tu veux, c'est un rationaliste extrême, Russell. Hein. C'est quelqu'un qui défend cette éthique de la croyance, là, pour le coup, qui est tout sauf un moralisme. Hein. Qui est l'idée qu'effectivement, il n'y a aucune raison de croire quelque chose dont on n'a pas la preuve que ce soit vrai. Donc c'est une espèce de scepticisme extrême en même temps. Tant qu'on n'a pas la preuve que quelque chose est vrai, il n'y a aucun sens à le croire. Voilà.
C'est au début des sceptiques qui dit ça.
Bonne raison.
Tant que j'ai pas de bonne raison de croire à quelque chose.
Exactement. Et donc, si tu veux, il pose la question. Alors, la meilleure des raisons, c'est effectivement quand tu crois quelque chose qui correspond à des faits, avérés, si tu veux. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, c'est une raison objective. Bon. Et puis, quand t'as pas de raison objective, du coup, tu peux essayer d'aller voir d'autres raisons qui peuvent être là. Donc, effectivement, est-ce que ça encourage? Est-ce que ça développe telle attitude?
Ça va être des raisonnements de type probabiliste.
C'est ça. C'est ça. Ou même, si tu veux, de la psychologie, lui, c'est pas. Tu vois, c'est de la psychologie assez simple qui fait, en fait, quelles sont les passions qui s'expriment, par exemple, dans tel ou tel dogme religieux. Bon, en fait, voilà, c'est d'après lui, la haine, la crainte, la suffisance, voilà. Affirmer le libre arbitre, c'est une manière, en fait, de s'interdire de conclure à l'analyse causale d'un comportement, d'une décision, en estimant qu'on est au-dessus. Bon, donc, en fait, c'est une forme de déni, en fait, si tu veux, de la réalité des enchaînements causaux qui font qu'effectivement, effectivement, on ne prend pas la décision librement ou de nulle part lorsqu'on fait quelque chose. Donc voilà, suffisance dans ce cas-là. Bon, puis le raisonnement, après, le développe sur d'autres points, si tu veux, sur le... Je retrouve les points tels qu'il les argumente là. En tout cas, c'est toujours, si tu veux, il y a pas un seul argument terroriste quoi chez lui. C'est ça qui est assez rafraîchissant aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on est toujours voilà la suffisance, la crainte, la haine. Voilà les trois passions fondamentales. C'est dans un petit texte que je connaissais pas qui est très 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 percutant. La religion a-t-elle contribué à la civilisation ? Voilà, par exemple. Ça peut être une forme de défense de la religion, c'est-à-dire effectivement, bon, on ne sait pas si Dieu existe, on ne sait pas si l'âme est immortelle, mais en fait, les passions, si tu veux, qui sont mises sur la table, ou qui sont misées, en quelque sorte, dans la religion, ou les comportements, les attitudes, les valeurs, ont des effets positifs.
Le christianisme nous a civilisés.
Par exemple, et donc si tu veux, et de ce fait-là, tu peux tirer effectivement une part de justification, en tout cas effectivement de la croyance religieuse. Bon, en fait, il n'est pas du tout d'accord avec ça, lui. En fait, il montre que non, c'est un facteur en fait hostile au progrès du point de vue de la connaissance. Ça, c'est clair, en fait. Ça s'oppose toujours à la connaissance, notamment à cause de ces questions du libre arbitre, là.
C'est clair dans le monothéisme, oui.
Voilà. Et tu as sur l'idée de justice aussi, assez marrant. C'est des formules. Je lis peut-être un passage, puisque ça donne une idée aussi du style et du style d'argumentation qu'on trouve, parce que c'est quand même... C'est rond et dit, là. C'est sur l'idée de justice, par exemple. L'idée de juste, comme quoi le christianisme ou les religions monothéistes auraient eu ce bénéfice-là d'introduire l'idée de justice dans les cultures humaines, à très grande échelle, et du coup à civiliser les hommes de ce point de vue-là. Alors, il répond, il dit l'idée de justice. Donc la troisième impulsion contenue dans la religion est celle qui a conduit à l'idée de juste. Alors je n'ignore pas que c'est Russell qui parle, hein. Bien des libres penseurs traitent cette idée avec beaucoup de respect et soutiennent qu'il faut la sauvegarder alors même que la religion, sous sa forme dogmatique, tombe en ruine. Et je ne suis pas d'accord avec eux sur ce point. L'analyse psychologique de l'idée de juste me paraît révéler qu'elle a pour racine des sentiments peu avouables et qu'on ne doit pas la renforcer en lui accordant l'imprimatur de la raison. Il faut considérer ensemble le juste et l'injuste. Il est impossible d'attirer l'attention sur l'un sans attirer aussi l'attention sur l'autre. Or, qu'est-ce que l'injuste ? En pratique, c'est un certain comportement que le troupeau déteste. Un autre comportement lié à l'idée de justice est à l'origine d'un système moral raffiné. C'est ainsi que le troupeau se justifie, tire vengeance de ceux qui lui déplaisent et les châtie. En même temps, comme le troupeau est par définition juste, il rehausse à ses propres yeux la bonne opinion qu'il a de lui-même au moment même où il libère son penchant pour la cruauté. Telle est la psychologie du lynchage. Telle est celle des moyens généralement employés pour punir le criminel. Conclusion. L'essence de l'idée de juste, c'est donc d'offrir une issue au sadisme en affublant la cruauté du masque de la justice. Et je trouve que c'est assez significatif, ça, cette manière d'argumenter, parce que c'est une espèce d'analyse...
C'est quasi Nietzschéen.
Exactement. Mais t'as plein d'analyses comme ça, en fait. On dirait du Nietzsche, sauf que c'est du Nietzsche, mais Nietzsche qui bluffe pas.
Du Nietzsche sans la division du troupeau en élite.
Exactement. Et c'est une analyse factuelle.
C'est nous, voilà comment nous fonctionnons.
Exactement. Mais tu as plein d'analyses comme ça, c'est assez frappant, et notamment sur les analyses du ressentiment. Hein, c'est une des analyses chez Nietzsche, une critique du christianisme, une espèce de haine de la vie, si tu veux, de haine de la vie qui serait à l'origine des dogmes chrétiens. Donc ça, c'est l'approche nietzschienne. Mais comme tu dis, effectivement, tu n'as pas du tout de contrepoint ou d'implicite élitiste derrière. C'est pas du tout ça, sa manière de fonctionner. C'est juste le fait de dire, en fait, cette idée de justice, c'est pas la bonne manière ni de justifier la religion.
Oui.
Et de toute façon, l'idée de justice telle qu'elle est développée dans le christianisme est une idée qui est critiquable pour ces raisons-là, justement. Parce qu'effectivement, elle masque en réalité la tyrannie de la majorité, en fait, en quelque sorte. Hein. Et c'est même le sadisme, hein, sadisme et la cruauté de la majorité. Ça aussi, c'est des thèmes assez nietzschéens, parce qu'il va chercher du côté, effectivement,
La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de minorité glorieuse et éclairée.
Ah, du tout. Il n'y a aucun héroïsme là-dedans, si tu veux. Ben, en fait, il défend, après, ce qu'il défend, lui, est assez proche, si tu veux, des morales utilitariste, hein, oui. Donc, c'est-à-dire...
Il y a son gros bouquin Morale et politique où il développe ça. Mais...
Bah, c'est la question, ce qu'il reproche fondamentalement aux religions, c'est de non seulement de ne pas avoir fait tout ce qu'elles pouvaient pour limiter, mais même d'avoir encouragé la souffrance dans l'histoire des hommes et la souffrance de les relations entre les hommes. Donc en fait, il a un critère qui est assez simple, c'est celui effectivement, ce qui est souhaitable, c'est de faire diminuer la souffrance. En fait, hein, c'est de faire diminuer la souffrance. Et c'est pareil parce que rien ne viendra la justifier de manière satisfaisante. Rien ne viendra la justifier de manière satisfaisante. Oui. Donc effectivement, les passions qui sont celles de la cruauté, du sadisme, de la haine, sont. Alors il y a du désir derrière tout ça. Il n'y a pas de condamnation du désir. C'est pas non plus la raison contre les désirs ou la raison contre les passions. Il n'est pas du tout naïf de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, il est assez Humeien, si tu veux, hein, comme le nom du philosophe des Lumières écossais là, qui pensait simplement que la raison est une passion parmi d'autres, plutôt plus faible que les autres. Mais que on ne peut pas comme ça imposer ou décréter hein, que la raison serait quelque chose de comme ça qui serait capable de légiférer ou de s'imposer aux passions humaines. C'est plus compliqué que ça. Et Russell n'est pas du tout naïf là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une analyse des passions et de la part des passions dans les relations humaines et dans la vie humaine, en particulier dans la vie sociale. Et simplement, il considère que la religion, notamment chrétienne, a encouragé plutôt les passions de haine, les passions de cruauté, qui sont des passions alors, qui s'appuient aussi parfois sur certains désirs, hein, mais qui sont des désirs en fait, qui doivent être écartés parce qu'en fait, ils créent forcément de la conflictualité et de l'incompatibilité entre les désirs. Et en fait, il défend, alors c'est pareil, c'est peut être troublant pour un espèce d'antichrétien comme ça, il défend une espèce de conception de la vie sociale qui reposait sur l'amour. Alors l'amour en tant que, à la fois, contemplation et dévouement, il dit. Donc t'as presque l'impression d'entendre des trucs un peu de curé, sauf que ça n'a plus rien de curé en fait dans cette affaire-là. C'est-à-dire que contemplation et dévouement, pourquoi c'est préférable? Parce qu'en fait, si effectivement t'es dans ce type de rapport-là, et de ce type d'affect, je dirais, entre les gens... Tu n'as pas d'incompatibilité des désirs. Oui. Tu peux arriver effectivement à optimiser et à développer.
C'est une division qu'on trouve souvent chez lui dans pas mal de ses textes politiques. Tout à fait. Où il dit qu'il y a des pulsions d'appropriation.
Exactement.
Qui ont besoin de détruire l'objet et de l'accaparer, d'en priver les autres.
Et d'en priver les autres, exactement.
Alors que tu as d'autres, ouais. d'autres passions, d'autres ouais. pulsions qui, elles, sont, comment dire, justement, ouais. s'exercent sur des objets ouais. Qu'on ne détruit pas.
C'est ça.
En les consommant, entre guillemets.
Ouais, on les consomme pas. C'est ça. Et donc, c'est ce type de défense là. Donc ce qui est un peu troublant parce que si tu veux, tu peux avoir l'impression de dire
c'est une vision qui était un petit peu c'est une vision qui était un peu à mode dans les années 20-30, tu l'as trouvé
oui,
pas mal d'auteurs.
Bien sûr.
Donc ouais. là pour le coup, il l'invente ouais. pas mais ça m'étonne pas qu'il la reprenne ouais. maintenant. Et donc pour lui le christianisme est clairement plutôt du côté des pulsions d'appropriation, de destruction.
Absolument. Ouais, de châtiment quoi. Bon, c'est en ce sens-là effectivement tu as un côté un peu nietzschéen si tu veux, c'est la justification du châtiment avant tout, hein.
Pourquoi je vous ai puni quoi.
La justification du châtiment et notamment la condamnation de la sexualité et du plaisir sexuel qui est centrale aussi dans cette affaire-là. Ouais.
On vous avait passé le Baron Rouge, le mariage, un morceau de 1986 là précédemment, et là on va vous passer du Crass, Our Wedding.
Your boy.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc, qui fait sa rentrée post-déconfinement. Avec un. Donc là, vous venez d'entendre un morceau, le seul morceau pas punk de Crass, sans doute, Notre Mariage. Et c'est parce que, évidemment, José, avec son sens de la propos absolument terrifiant et sa préscience, comment dire, ébouriffante. Et son moteur de recherche
ébouriffant.
Vous avez prévu donc des morceaux adaptés au livre dont on vous parle ce soir, un livre de Bertrand Russell, enfin un essai, Le mariage et la morale, qui suit un autre essai, Pourquoi je ne suis pas chrétien. Et donc évidemment c'est lié, puisque très très fréquemment le mariage reçoit dans notre culture des justifications morales et religieuses que Russell s'efforce de démolir pierre par pierre. Et donc évidemment une suite logique, c'est que ça s'est fondé sur un rejet assez radical chez Russell de la religion. Puisque pour Russell, faut être très très clair, quoi, nous n'avons aucune bonne raison de croire à l'existence de Dieu, tout simplement. Et il a écrit un petit texte qui a été censuré à l'époque, qui s'appelle justement, qui est sur l'existence de Dieu, où il y a un moment il dit voilà, si moi je crois que il existe une théière en orbite autour de Mars qu'aucun appareil ne peut détecter, vous me direz que je suis complètement cinglé. Mais si je vous dis que je crois en un truc qu'on a affirmé il y a 6000 ans dans un livre que personne ne comprend, là on va l'enseigner aux enfants. Et donc c'est un athée qui est assez robuste, disons.
Alors, c'est sûr que, effectivement, t'as cette...
Et à partir de là, il va aussi s'attaquer, mais il va aller au-delà. Ouais. C'est-à-dire parce qu'effectivement, vous avez aussi toute une défense de la religion, comme tu le disais, qui va se faire sur des arguments pragmatiques, ouais, fonctionnalistes, du type « La religion n'est peut-être pas vraie, mais tant qu'elle est utile, il faut la garder. » Alors ça, c'est un argument qui a géométrie variable, qui peut être utilisé autant par des gens comme Spinoza, qui vont dire « Globalement, la religion, tout est faux, mais c'est pratique pour que le peuple se tienne à carreau. » C'est un peu ce que dit Spinoza dans les théories géopolitiques. Et puis après, vous allez avoir des gens qui vont utiliser cet argument-là, qui sont croyants, et qui y voient une espèce de digue contre l'athéisme, en quoi, à mon avis, se plante, parce que c'est un argument athée. C'est un argument cynique. Voilà. Du genre, ouais, non, c'est utile pour les crétins. Et les crétines, qu'ils croient. Pendant ce temps-là, nous, on fera nos affaires. Et Russell, il va plus loin, puisqu'il va aussi démolir cet argument, en montrant que non. Parce que justement, je me rappelle de quelques petits textes de lui où il disait globalement, ce qu'il y a de bien moralement dans le christianisme, c'est des trucs qui fait juste qu'on n'est pas des chiens. C'est une base morale qu'on trouve dans toutes les sociétés.
T'as deux trucs, hein, parce que dans le texte sur le mariage, t'as tout cet aspect-là anti-religieux, qui est un gros morceau, hein, mais il n'y a pas que cet aspect-là, c'est qu'il démonte aussi le patriarcat, et c'est pas le christianisme qui invente le patriarcat.
Non, c'est d'avant.
Et à la limite, c'est même, donc c'est d'avant, hein, c'est l'Antiquité, là, effectivement, donc il y a toute cette partie-là. Et le christianisme, est même, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un des ferments d'eux, tu vois, c'est pas un bloc univoque comme ça, là, du point de vue du mariage, donc il y a un peu les deux. Par contre, la deuxième partie, elle est claire et nette, et en fait, on comprend pourquoi, si tu veux, c'est parce qu'effectivement, ce que ça fait hurler, en fait, ce type d'analyse-là. Je dirais même, les conclusions, ça les fait hurler, mais c'est même la méthode qui les fait hurler, je pense. C'est la méthode qui les fait hurler. C'est-à-dire que tu puisses poser la question, que tu puisses poser sérieusement la question de la vérité, du bien fondé et du fait que qu'il soit justifié de développer une croyance religieuse. Le fait de poser cette question-là, si tu veux, et de la poser sérieusement et d'aller au bout de la question, je pense que ça déchaîne, en fait, car c'est des foudres en face, quoi. Et quand tu vois...
Alors... Parce que c'est une question qui ne se pose plus au XXe siècle, alors qu'elle s'est beaucoup posée avant. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que cette question, est-ce que j'ai de bonnes raisons de croire ce que je crois quand je suis chrétien protestant ou chrétien catholique, au moment de la réforme, c'est une question qui se pose tout le temps et très très clairement
c'est vrai.
Parce qu'ils pensent être justifiés et avoir de bonnes raisons de croire. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que justement à cause d'un livre que j'ai lu là, dont tu disais que c'était le dernier livre qu'on devrait lire quand on a de Popkin sur l'histoire du scepticisme, ça part du protestantisme et et les croyants à ce moment-là se posent toujours la question, sauf qu'ils pensent avoir de bonnes raisons de croire. Et progressivement les bonnes raisons de croire vont s'affaiblir sous les usages conjugués du scepticisme par les chrétiens de tous bords,
scientifiques aussi,
et les progrès scientifiques. Et ce qui est rigolo, c'est que d'une certaine manière au XXe siècle, cette question qui était posée par les croyants, est-ce que j'ai bonnes raisons de croire, avec une réponse affirmative, oui, j'ai de bonnes raisons de croire. Mais au XXe siècle, elle devient insupportable. Et là, on est encore un petit peu dans le territoire de Nietzsche, hein, Dieu est mort. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trop poser la question de la vérité de la croyance en Dieu, de sa justification. Et elle devient inaudible. Ouais.
Oui, et du coup, effectivement, alors ce qui est intéressant, je le signalais au début, en deux mots quand même sur le dernier texte, là, Ce que je crois, qui est un texte de 25, là, donc un petit peu antérieur, hein, assez étonnant, effectivement, Ce que je crois, comme le titre, c'est une espèce de manifeste, tu vois, manifeste moral là-dessus.
Credo.
Ouais,
le credo, je crois.
Voilà, c'est un credo athée, il n'y a pas de... Et réellement athée, c'est-à-dire qu'effectivement, donc là où il se pose sérieusement voilà, la question sur quoi s'appuyer, sur quoi effectivement tabler, je dirais, tu vois, pour envisager une espèce de morale qui s'appuierait sur des faits et qui effectivement contribuerait voilà, à une société plus harmonieuse, donc moins génératrice de souffrance, etc. Sans effectivement laisser de côté voilà, des passions qui sont irréductibles. Il y a toutes des analyses qui sont intéressantes en même temps chez un mec comme ça, où il t'explique voilà, que par exemple l'envie, c'est un truc qui est irréductible. De toute façon, il y a des chances pour que ce soit irréductible dans quelques modèles que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux effectivement avoir un modèle social qui réduise en fait la part d'envie, mais en
l'envie,
fait...
L'envie, au quel sens l'envie, alors, être envieux à l'égard des autres.
Être envieux de quelqu'un, voilà. Donc la méchanceté, c'est pareil. Il pose les choses de manière très, très, très... très 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 direct, je dirais, ouais. Tu vois, voilà, la méchanceté, est-ce qu'on peut en finir avec la méchanceté, est-ce que l'homme est mauvais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est un problème, je veux dire, c'est un vrai problème. Donc effectivement, bah alors, quelles sont les causes de la méchanceté? Alors, il y a des causes sociales, la peur d'être ruiné par exemple, le peur du déclassement, donc ça c'est une cause sociale, là-dessus on peut peut-être éventuellement effectivement agir, essayer de limiter la casse, mais ça va être aussi l'envie ou la déception. Hein, par rapport, et ça, l'envie ou la déception entre deux personnes qui sont sur le même fromage, dans la même activité, dans le même domaine, etc. Est-ce qu'on peut vraiment éviter ça? C'est peu probable. Donc, il faut essayer de faire en sorte de limiter ça ou que ça enchaîne pas sur d'autres, sur des conséquences plus néfastes derrière. Donc, tu as tout ce type d'analyse-là. Il se pose ces questions assez sérieusement, là, de cette manière-là. Mais, donc, pour terminer quand même, ce qui est savoureux, c'est de voir, si tu veux, voilà, la réception et le déchaînement que t'as en face au moment où donc l'auteur de ces textes-là,
oui. Hein, des trucs qui nous semblent comment dire,
ouais, qui semblent si tu veux, bah, qui semblent des enfin voilà de l'analyse critique, je dirais élémentaire. Ça veut pas dire que c'est banal ni naïf, hein, parce qu'en fait il faut regarder de près, c'est quand même fait au laser, hein, ces arguments. Mais le déchaînement que t'as en face, alors là pour le coup, et je pense que t'as raison quand tu dis qu'effectivement on est au XXe siècle dans un contexte de Dieu est mort, où en fait du coup dès que tu rappelles le fait, en fait, tu déchaînes, du coup, un tiers de barrage en face, et donc effectivement là tout y passe. Donc effectivement, donc il est un dépravé. Donc t'as un côté, les gens se rendent même pas compte en fait, si tu veux. Donc c'est une nana visiblement qui va déposer plainte auprès du tribunal de New York. Oui. On sait pas qui c'est en fait, donc on sait pas par qui elle a été financée. Il y a un avocat qui va très vite rentrer, un avocat prestigieux qui rentre très vite dans la cause et qui va commencer à sortir des argumentaires complètement ultra structuré et en même temps ultra réac, si tu veux, qui sortent directement, qui ont déjà été visiblement préparés quasiment à l'avance. Donc il y a un côté cabale, si tu veux, dans la procédure. Et contre toute attente, en fait, le juge en fait va complètement bâcler ne reçoit pas Russell, ni son avocat, ni sa défense, prend tout au pied de la lettre, et donc effectivement va prononcer un jugement d'exclusion de la chaire, avec derrière en essayant d'entraîner le maire qui va faire pression sur les financements du collège en question, qui va supprimer directement sans prévenir d'ailleurs le collège la part de budget qui était allouée tout simplement au financement de la chaire en question. Enfin, voilà, t'as une espèce avec des manifestations, hein, mobilisation, etc. Et là, les arguments sont d'une... Mais t'es en deçà du procès de Galilée, si tu veux. C'est juste... c'est le mec donc, avec les gars qui s'auto-réfutent même, quoi, si tu veux, une espèce de dépravation de la jeunesse. Donc voilà, un nouveau Socrate, quoi. Voilà, tel quel, mais ils te le servent sur un plateau, en fait, si tu veux. Ils te le servent sur un plateau, donc dépravation de la jeunesse, encouragement, donc défense et éloge de l'adultère, ce qui n'est pas le cas, en fait, si tu veux, quand tu regardes ce qu'il dit, c'est pas ça, en fait. C'est pour défendre un mariage dans l'intérêt des enfants, il faut admettre une liberté sexuelle des époux. Ce qui n'a rien à voir avec une défense ou avec une exaltation de l'adultère, parce qu'il n'y a plus d'adultère, en fait, tout simplement. J'ai dit même d'adultère qui n'a plus de sens,
oui,
en fait.
C'est ça qui est insupportable.
Voilà. C'est cette espèce de déflation, si tu veux, voilà. De déflation morale, en fait. Fait de dévalorisation, finalement, des catégories religieuses elles-mêmes. Parce qu'on leur oppose des faits, te déclenche voilà une espèce de tir de barrage complètement délirant. Alors peut-être là-dessus, parce que le texte est quand même assez marrant de ce point de vue-là, il y a deux, trois extraits des actes du jugement peut-être, ou des formulations utilisées, parce que c'est quand même, ça vaut le coup. Oui. Alors, j'ai essayé de trouver les passages les plus savoureux.
Donc il y a toutes les menaces y passent, hein, financières, etc. Donc, il est traité de communiste aussi à un moment donné. Alors bon, quand on sait que c'est un anticommuniste assez virulent,
mais athée, donc communiste aux États-Unis,
voilà, c'était là. C'est ça. Et donc alors voilà,
c'était l'accusation typique. Oui, vous avez parlé d'un bouquin sur le bolchevisme où Russell justement montre à quel point la révolution menée par les bolcheviks en Russie risque de mal tourner parce que ils partent de principes politiques qui sont limite platoniciens et qui vont appliquer au réel de façon ultra violente.
Alors allons-y là-dessus. Donc par exemple, c'est les avoués. Donc la femme qui avait déposé en fait plainte, c'était Mrs. Kay. Et donc défendu par un avocat, l'homme de loi de Mrs. Kay était un nommé Joseph Goldstein qui, avant le règne de la Guardia, donc ça c'est le maire de New York de l'époque, républicain, mais les démocrates ont été absolument indignes dans l'affaire, la presse a été indigne, le New York Times a été indigne, en fait tout le monde s'est écrasé en fait devant les ligues de vertu évangéliques et catholiques. Et donc alors la Guardia avait été conseiller municipal sur le régime démocrate. Bon, dans son dossier, Goldstein, donc l'avocat de la plaignante, hein, décrivait l'œuvre de Bertrand Russell, je cite, comme lubrique, libidineuse, lascive, dépravée, érotique, aphrodisiaque, irrévérencieuse, étroite d'esprit, mensongère et dépourvue de toute fibre morale.
Il faut le dire, d'urgence.
Bah, c'est quand même. En fait, tu te dis, c'est sidérant, en fait. C'est sidérant de conneries, quand même, quoi, le fait de dire ça. Et alors, après, derrière, donc. Au surplus, il accusait Russell d'avoir dirigé une colonie de nudistes en Angleterre, de s'être publiquement montré nu lui-même, de même que sa femme et ses enfants, de s'adonner encore à 70 ans à la poésie érotique. On ajoutait qu'il avait un penchant pour l'homosexualité, qu'il allait d'ailleurs jusqu'à défendre. Mais ce n'est pas tout. Hein, Goldstein, qui passait sans doute ses loisirs à se mêler de philosophie, concluait en portant un jugement sur la valeur même de l'œuvre de Bertrand Russell. Le voici. Deux points. Ouvrez les guillemets, donc ça c'est l'avocat qui parle. Ce n'est pas un philosophe dans l'acception normale des termes, quand on voit de qui qui parle. Il n'apprécie pas la sagesse, il ne la recherche pas. Il ne tente pas d'expliquer les phénomènes de l'univers d'après leur cause finale, comme le requérait une philosophie authentique. Selon mon opinion, confirmée par celle de nombreuses autres personnes, Russell est un sophiste. Il développe des arguments que la saine raison ne saurait défendre à force de sophismes, d'artifices ingénieux, de ruses, de stratagèmes, de subterfuges. Il tire des déductions en partant de fondements mal établis. Les prétendues doctrines qui passent pour être sa philosophie ne sont qu'un amas de fétiches à bon marché, prétentieux, usés, rapetassés et d'affirmations gratuites lancées pour égarer le monde. Faut oser, quoi.
J'adore les causes finales, moi.
Si faut quand même oser, quoi. Il te parle, tu vois, du plus grand logicien du XXe siècle. On t'explique que non, mais tout ça, ça tient pas la route, quoi. Et donc, tout est à l'avenant comme ça, si tu veux. Alors, t'as d'autres extraits. Donc, ce passage-là est assez intéressant. Parce qu'effectivement, ça te donne une idée, effectivement, du niveau de débat. Et en même temps, je trouve que c'est New York, quoi. Tu vois, c'est pas une université du Texas ou machin, quoi. Alors, effectivement, on est en...
C'est les États-Unis aussi.
Et ouais. Mais en fait, c'est les États-Unis en 27. Quand tu vois les prises de position des élus démocrates, si tu veux, de New York, quand tu vois les prises de position de l'éditorialiste du New York Times de l'époque, qui est un faux cul mais intégral, si tu veux, qui renvoie un peu dos à dos, en fait, tu vois, qui renvoie un peu dos à dos, Russell aurait dû de lui-même renoncer à la candidature quand il a vu le barouf, etc., quoi. Les mecs, ils sont juste, en fait, c'est pas les mêmes enjeux, et puis c'est pas la même issue, mais t'es quand même sur un truc du niveau du procès de Galilée, si tu veux. C'est-à-dire que si tu veux, c'est une chasse aux sorcières où les mecs, on lit pas les textes, on l'accuse, on calomnie, on ment, et en fait, on intervient pour des raisons religieuses dans la liberté pédagogique et la liberté d'élection du corps enseignant universitaire et la liberté de la recherche. Un des premiers à avoir défendu Russell, c'est Dewey, par exemple, à l'époque, hein, qui, lui, évidemment, est sans ambiguïté là-dessus.
Ah non, tu vois, quand tu dresses ce tableau-là de façon très, très générale, je dirais qu'il y a peu de choses qui ont changé. Hein.
Mais tu te dis qu'effectivement.
Les politiciens et les journalistes.
T'as ce côté comme ça,
c'est
mais
à
là.
Savoir qui sera le plus lâche et le plus.
Disons que là, t'as le côté caricatural du truc fait quand même assez gambergé, quoi. Et tu te dis qu'effectivement, les États-Unis, tu vois, t'es quand même, t'es à deux ans de Roosevelt, du New Deal. Tu pourrais t'imaginer quand même que t'as quand même un niveau, je dirais, du débat public qui neutralise, en fait, tu vois, le parce que quand tu vois les Trumperies aujourd'hui, là, t'as l'impression d'être sur une autre planète, mais en fait, ça vient pas de nulle part, quoi. Tu vois, ça vient pas de nulle part, en fait, t'es dans un. Et t'as un côté, plus c'est gros, plus ça passe, quoi, tu vois, dans cette cabale-là. Bon, toujours est-il qu'il sera jamais élu dans ce collège-là, hein, puisque voilà, il est en 41 là-dessus. Et alors bon, la chute de l'article là qui est entre les
qui est au cœur du recueil là, est assez marrante parce que du coup il conclut, donc il résume les données de la cabale juridique là, et il conclut sur le truc, c'est assez marrant. Il met donc la fin de l'histoire quoi, de Russell aux États-Unis après. Donc il met de Californie, Bertrand Russell, donc là c'est le collègue de Russell qui parle, son collègue et admirateur. Donc Bertrand Russell se rendit à Harvard, dont le président et les membres du corps des professeurs n'avaient sans doute pas assez pris à cœur l'affirmation selon laquelle Bertrand Russell était indigne d'enseigner dans une école américaine. Donc ironique évidemment. Ils firent d'ailleurs paraître une déclaration disant qu'ils avaient pris connaissance des critiques émises à propos de sa nomination, mais qu'ils estimaient que l'intérêt même de l'université leur dictait la confirmation de leur nomination. Les cours de Bertrand Russell à Harvard se déroulèrent sans le moindre incident et les statistiques, semble-t-il, n'enregistrèrent aucune recrudescence des viols et des enlèvements. Ensuite, Bertrand Russell enseigna pendant plusieurs années à la Barnes Foundation de Marion en Pennsylvanie. En 1944, il retourna en Angleterre où, quelques années plus tard, le roi George VI lui décerna l'ordre du mérite. En 1950, Russell fit les Machette Lectures à l'Université de Columbia, où un accueil délirant lui fut réservé. On fit des comparaisons avec les acclamations que reçut Voltaire en 1748 à son retour à Paris, où il avait connu la prison, et dont il avait ensuite été exilé. En 1950 également, un comité suédois, dont la moralité ne répondait sans doute pas aux normes américaines de la décence, décernera à Bertrand Russell le prix Nobel de littérature. Mrs. Kay, son avocat et le juge ne firent pas de commentaires à ce sujet. Tout au moins, ses commentaires ne furent pas publiés.
C'est comme ça qu'il conclut sur le truc. Et donc, effectivement, ce qui restera comme la cabale la plus pathétique, quoi, en fait, hein, des ligues de vertu new-yorkaises de cette décennie-là. Donc, en tout cas, bon conseil de lecture, voilà. Et sur le mariage, et sur la critique du christianisme, et sur effectivement l'anecdote un peu historique, hein, de la réception, autour de la réception de ces textes-là. Donc encore un bon conseil de lecture en tout cas pour les auditeurs. Donc ce livre de Bertrand Russell, Le mariage et la morale, suivi de Pourquoi je ne suis pas chrétien, c'est aux éditions des Belles Lettres. Donc une réédition, le texte est, l'édition d'origine est de 57, la traduction est là, une deuxième édition. En 2019.
Voilà, donc c'était Jeudi Noir pour sa reprise. Et puis là, vous allez avoir droit à un petit morceau des Cafards. On reviendra sans doute dans deux semaines avant de prendre notre congé estival bien mérité après tant d'émissions épuisantes. Et voilà, on ne sait pas si entre chien et loup viendra après. À bientôt.